Alors, pour commencer cet enseignement, il m'est revenu une histoire réelle. C'est à Rome. Quand j'étais à Rome, j'avais entendu parler d'une jeune prostituée de 14 ans qui se droguait dans les rues de Rome, qui était connue des services sociaux et qui avait croisé Mère Teresa sans le savoir. Et Mère Teresa l'avait regardée, lui avait dit simplement « Suis-moi ». Et cette jeune prostituée avait suivi Mère Teresa, avait totalement changé de vie. Ça faisait longtemps que plein d'éducateurs essayaient de la remettre sur le bon chemin. Donc ça avait fait beaucoup de bruit à Rome. J'ai repensé à ça. J'ai repensé aussi, de manière un peu douloureuse, à l'expérience que j'ai eue comme jeune prêtre quand j'étais au centre Tibériade. Il y avait des drogués aussi. Un centre d'accueil pour les gens atteints par le sida. Et nous avions beaucoup travaillé pour aider un garçon qui se droguait depuis longtemps à retrouver un logement et à retrouver une stabilité. On était arrivé à lui trouver un logement, de fait, stable. Et quelques mois après qu'il ait retrouvé une vie normale, entre guillemets, il s'était suicidé. Je donne ces deux exemples. Parce que dans un cas, il y a une action divine, un regard. Parce que la prostituée, on lui avait dit « Mais pourquoi vous avez changé ?» Elle a répondu simplement « Personne ne m'a jamais regardé comme ça. » Un regard qui a suffi à changer une vie. De l'autre côté, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, bien intentionné évidemment, qui finalement sont restés stériles. Alors la question que nous abordons aujourd'hui pour terminer notre parcours, c'est... Comment faire pour que notre action soit divinement efficace et que ce soit vraiment l'amour divin qui nous inspire et qui nous meuve? Parce que vous le comprenez bien, ce qui fait la différence, c'est la charité divine. Personne ne m'a jamais regardé comme ça. Ça, c'est le regard du Christ à travers les yeux de Mère Teresa. C'est sa charité, le feu de son amour qui a éclairé cette jeune adolescente. Avant de mourir, Jean-Paul II avait prévu un Angélus pour le dimanche de la Divine Miséricorde. Il n'a pas pu le dire, parce qu'il est mort la veille, mais dans cet Angélus, il disait simplement « Seul l'amour convertit le cœur ». Et tant que le cœur n'est pas converti, la vie ne peut pas vraiment changer en profondeur. Alors je voudrais donc voir comment nous pouvons favoriser cette action de la charité divine, que ce soit vraiment... l'amour divin qui agisse en nous et à travers nous, c'est une autre manière de parler de l'Esprit Saint. Mais je ne vais pas nommer l'Esprit Saint, je vais parler de l'amour divin. Parce que l'Esprit Saint, il agit à travers la charité divine. Cette charité divine qui doit nous embraser et être, je dirais, le moteur et la source d'inspiration de nos actions. Et souvent, elle est bien là dans nos cœurs, mais ce n'est pas elle qui nous fait vraiment agir. Saint Paul dit, puisque l'Esprit Saint est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Et là, nous retrouvons la question que nous étions posée au début de notre parcours, c'est-à-dire comment unifier notre vie, fait que la grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême, soit le moteur réel, effectif de notre vie, qu'il n'y ait pas deux vies parallèles, une vie spirituelle d'un côté, et puis une vie concrète qui serait faite simplement au niveau à un niveau humain, en fait, au niveau moral, au niveau des bonnes intentions, avec nos forces propres, tout ça avec une intention chrétienne, mais sans être vraiment mû par la grâce. Alors, j'ai pensé que nous pouvions aborder la question, évidemment, il y a la question de toutes les purifications qui sont nécessaires. On en a parlé pendant le week-end sur la guérison. On parlait des purifications nécessaires pour que la charité divine puisse de plus en plus pénétrer notre humanité, nous transformer. Mais aujourd'hui, je voudrais voir comment nous pouvons nous laisser inspirer et mouvoir par l'amour divin dans notre activité, dans l'action, sans être nécessairement déjà entièrement purifié. Je veux dire qu'on peut agir ponctuellement dans l'amour et par amour, en étant mû par l'amour, inspiré par l'amour, sans être nécessairement déjà des saints, sans être nécessairement déjà entièrement purifié. On peut sanctifier notre manière d'agir. Si dans une journée, on avait un acte, ne serait-ce qu'un seul acte, qui soit vraiment mu et inspiré par l'amour, ça c'est déjà extraordinaire. Totalement mu et inspiré par l'amour. Si dans une journée, on avait un regard qui transformait la vie de quelqu'un, c'est déjà extraordinaire, on est bien d'accord. Mais de penser que nous pouvons, à certains moments, agir saintement sans être encore des saints. Heureusement, monstre, ce serait décourageant. Alors, de quelle manière nous pouvons agir saintement sans être déjà saint? Mais il m'a semblé qu'une bonne manière de voir les choses, c'était la question des vertus, l'exercice des vertus. Donc, la sanctification de notre agir, de notre manière d'agir, par l'exercice des vertus. On aurait pu faire un développement sur la prière continuelle, comment prier dans l'action. On aurait pu envisager les choses donc, d'une autre manière. Mais là, j'ai choisi une manière que je n'ai jamais abordée jusqu'ici, l'exercice des vertus. Quand j'ai dit l'exercice des vertus, c'est l'exercice des vertus humaines. Ici, on va faire des distinctions. L'Église distingue les vertus humaines puis les vertus théologales. Les vertus théologales, c'est les vertus qui nous unissent à Dieu, qui sont directement tournées vers Dieu. C'est la foi, l'espérance et la charité. Je n'ai pas arrêté d'en parler. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les vertus humaines peuvent favoriser les vertus divines, qui sont les vertus théologales, leur croissance et leur action. Autrement dit, comment par les vertus humaines, je peux davantage agir divinement? Comment je peux favoriser le dynamisme de la grâce, le dynamisme de l'amour en moi, en m'exerçant en vertu? Alors les vertus humaines, c'est quoi? Dans la tradition philosophique, on distingue les quatre grandes vertus théologales. J'ai ici un livre que vous...
Cardinal.
Les quatre vertus cardinales. Alors, vous les avez dans le catéchisme de l'Église catholique. Vous pourrez regarder. Mais elles sont présentes dans la Bible, de manière étonnante, dans le livre de la sagesse. Vous savez, il nous est dit que la sagesse enseigne tempérance et prudence, justice et force. Voilà, des quatre vertus cardinales. Vous savez, le livre de la sagesse a été écrit 50 ans avant la venue de Jésus, à une époque où le monde juif était déjà influencé par le monde grec. Donc c'est un livre qui est écrit en grec, et dans la philosophie grecque, Aristote, il y avait clairement les vertus, les quatre vertus cardinales. Donc la justice, la prudence, la tempérance, la force. L'Écriture dit, donc si je puis dire, Dieu intègre ça. C'est parti maintenant de la révélation. Il y a quatre grandes vertus. On dit cardinal parce que les autres se regroupent autour d'elle. Et l'Écriture dit même que c'est ce qu'il y a de plus utile dans la vie, c'est-à-dire pour agir. Qui ne désire agir avec force, avec prudence, d'une manière juste et avec tempérance en se maîtrisant lui-même? Qui ne désire cela? En réalité, tout homme aspire quelque part à jouir de ses vertus. Vertus, c'est-à-dire, c'est des dispositions stables qui nous permettent de faire le bien. Je vous donne exactement la définition du catéchisme. La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même, de toutes ses forces sensibles et spirituelles. La personne vertueuse tend vers le bien, le poursuit et le choisit en des actions concrètes. Ce sont des attitudes intérieures, des dispositions stables, des perfections de l'intelligence et de la volonté qui nous permettent de faire de plus en plus facilement, librement, le bien. Une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'on n'est pas vertueux. On aimerait bien posséder les vertus, on est d'accord. Avoir, jouir de cette aisance, de cette disposition stable pour... Et là, on retombe dans le même problème qu'avec l'amour, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut agir virtueusement sans être encore vertueux? C'est-à-dire, sans encore posséder d'une manière stable ses vertus. Et moi, je dis oui, on peut s'exercer aux vertus sans les posséder. Et on peut s'exercer à la justice, on peut pratiquer la justice, on peut pratiquer la prudence, on peut s'exercer à la tempérance, on peut s'exercer à la force, sans pour autant jouir de ces dispositions d'une manière stable. C'est-à-dire, on ne les a pas. On peut exercer des vertus sans les avoir encore acquises vraiment. Mais à quel moment on peut dire qu'on a acquis une vertu? Alors,
je voudrais poser une question au Père Louis. C'est, est-ce qu'il peut compléter le tableau avec les sept dons de l'esprit pour comprendre comment tout ça s'articule? Les trois théologales, les quatre cardinales et les sept dons?
Ça s'articule très bien. Mais on va voir ça par la suite. Pour l'instant, j'essaie de, que vous ne vous découragiez pas. Vous voyez, devant ce, la force, la justice, la tempérance et la prudence. Pour vous dire que, en fait, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de les posséder, les vertus, mais de les exercer. Vous pouviez retenir ça. À la limite, on peut passer sa vie à les exercer sans arriver à les posséder. Écoutez, la petite Thérèse, elle dit ça. Elle dit qu'elle s'est laissée longtemps exercer. Oui, c'est ça. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai pratiqué la vertu sans en sentir la douceur. Je n'en recueillais pas de fruits. Mon âme était comme un arbre dont les fleurs tombaient à mesure qu'elles étaient écluses. C'est-à-dire, elle faisait des efforts pour être de plus en plus juste, de plus en plus forte. Elle a fait une dépression infantile. Hein. Elle avait une fragilité, une très grande fragilité psychique. Elle a fait des efforts jusqu'à l'âge de 14 ans. Ben, apparemment, elle ne progressait pas. Mais ce que Dieu regarde, c'est l'exercice. Vous savez que Dieu se contente de notre bonne volonté. Donc, sans se décourager, elle a continué à s'exercer aux vertus, sans voir de transformation. La plupart des gens, vous voyez, qui on leur parle de vertus, ils pensent tout de suite à être plus fort, à se former et à acquérir comment dire, des bons plis qui fait qu'à partir de maintenant, ils vont être plus sûrs d'eux, plus une formation de soi, quoi. Et en fait, je voudrais vraiment dire que les vertus, c'est exercer des vertus, c'est se disposer humblement, en fait, à l'amour divin. Parce que l'Église nous dit que la charité va pouvoir grandir et fructifier en nous, à travers nous, à travers cet exercice des vertus. Donc exercer les vertus, c'est de se disposer, pas seulement à faire le bien, mais en fait c'est plus profondément se disposer à se laisser saisir, pénétrer et agir par l'amour divin. C'est important, c'est que ce soit l'amour qui nous fasse agir. Alors comment exercer les vertus? Non pas pour vouloir les acquérir, pour pouvoir être plus fort, plus sûr de soi, et comment exercer les vertus au service de la charité? Sans jamais pouvoir se dire, maintenant je suis un homme juste, maintenant je suis un homme fort, maintenant je suis un homme tempérant qui se maîtrise lui-même. Mais savoir les... Oui, savoir, je dirais, se disposer en gardant présent à l'esprit ces quatre vertus, à se disposer à l'amour. Alors, je ne vais pas parler de toutes les vertus, et puis je vais, à la fin, mettre en valeur trois autres vertus, qui sont les vertus évangéliques, qui se rattachent aussi aux vertus cardinales, mais qui sont des vertus plus discrètes, l'humilité, la douceur et la patience. Et dans ce matin, nous allons surtout parler de la vertu de justice. C'est d'actualité. Et Benoît XVI a insisté sur le lien entre la justice et la charité dans sa troisième encyclique.
Oui, Père, je voulais juste ajouter que là, vous dites depuis le début qu'on est tous... porté vers les vertus, qu'on a tous envie d'être vertueux. Moi, personnellement, je trouve qu'on n'a pas toujours envie d'être vertueux. On a peur de perdre, je ne sais pas, son caractère. Je trouve que les vertus ne sont pas très à la mode et qu'il faut vraiment se faire violence pour les exercer. Je voulais vous partager une petite expérience que j'ai vécue cette année. Poussée par les points concrets d'efforts qu'on nous demande de faire aux équipes Notre-Dame, j'avais décidé d'avoir une conduite moins sportive, de ne plus passer au feu rouge, enfin voilà, c'était vraiment du basique. Parce que je sentais que je partais, ça devenait dangereux. Je me suis exercée à cette prudence, j'ai essayé, je n'ai pas forcément toujours réussi, mais j'ai essayé d'avoir une conduite calme, ce qui ne correspond pas à mon caractère. Et alors là, ça m'a... ouvert des horizons. Le fait de m'arrêter au feu orange, je me suis rendu compte que du coup je ne tempérais plus, je ne m'énervais plus après ceux qui ne passaient pas devant moi au feu orange. Après, je m'énervais beaucoup moins après les autres conducteurs. Et finalement, j'avais un regard beaucoup plus charitable envers les autres finalement. Donc, tout ça pour dire que l'exercice de vertu très concrète, même si on n'en voit pas tout de suite tous les aboutissants, nous ouvrent des horizons de charité assez inattendus.
C'est une belle illustration, vous voyez. Fait un effort de tempérance, de maîtrise, de justice aussi, parce que c'est le code de la route. Hein. De prudence. Hein. Et elle dit, ça lui donne un regard plus charitable. Donc il y a bien un lien entre l'exercice des vertus et la charité. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas d'être vertueux, c'est d'être plus dans l'amour. S'il y a d'autres témoignages dans ce sens-là, je suis preneur. Écoutez la petite Thérèse. Ô mon Dieu, je vous en prie, préservez-moi du malheur d'être infidèle. Alors, sa petite sœur, elle disait ça sur son lit de mort. Sa petite sœur lui demande qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Elle veut dire d'une pensée d'orgueil entretenue volontairement. C'est ça, être infidèle. Écoutez la suite. Si je me disais, par exemple, j'ai acquis telle vertu, je suis certaine de pouvoir la pratiquer, alors ce serait s'appuyer sur ses propres forces. Quand on en est là, on risque de tomber dans l'abîme. Mais j'aurais le droit, sans offenser le bon Dieu, de faire de petites sottises jusqu'à ma mort. Si je suis humble, si je reste petite. Plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant. Il faut consentir à rester pauvre et sans force. Et voilà le difficile. Car le véritable pauvre en esprit, où le trouver, il faut le chercher bien loin, c'est-à-dire dans la bassesse, dans le néant. Vraiment, dire, plus on est sans vertu et plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant, c'est à la limite de l'hérésie, vous voyez, parce que ça casse la baraque de la morale. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire? En fait, elle les a exercées tout le temps, les vertus de la petite Thérèse, mais elle n'a jamais cédé à la tentation de vouloir les posséder, pour trouver en elle-même un appui. Parce que les vertus humaines sont des vertus qu'on peut acquérir. Et à ce moment-là, elle disait, à ce moment-là, si je l'arrivais à les posséder, ben je ne serais plus dans cette humilité des tout-petits. Donc, première leçon de ce matin, exerçons les vertus sans rêver à un homme fort.
D'être,
oui. Mais juste en pensant que c'est une manière de se disposer à l'amour. Et l'Église, pour ça, dans le Concile Vatican II, donne une image qui est éclairante. C'est un petit grain, elle compare la charité à un grain, hein, qui peut grandir et fructifier en nous par l'exercice de toutes les vertus. Ça revient à ce que je vous disais au début. Hein. La question, c'est comment favoriser, se disposer à l'action de l'amour divin en nous, à travers nous. Et je remercie Anne pour le témoignage qu'elle a donné, parce que, vous voyez, un tout petit effort qui porte beaucoup de fruits, hein, alors qu'elle ne se sent pas pour autant vertueuse. Hein.
Merci. Rire. Ah, nous, on ne se rend pas pour vagues.
Bon. Alors, vous voyez qu'on vit dans un monde où on n'arrête pas de se former. Hein? Il y a des formations sur formations. Alors, évidemment, l'intitulé, c'est pas acquérir des vertus, mais ça revient à peu près le même. C'est-à-dire, on veut être plus fort, plus compétent, avoir plus de qualité, plus de. On n'arrête pas de se former, mais je ne vois pas que ça porte beaucoup de fruits. Parce qu'il manque quoi? Ben, il manque le vrai moteur et la véritable énergie qui est la charité, qui est l'amour. Alors on acquiert beaucoup de savoir et de compétences, mais il manque l'essentiel. Que ce soit Dieu qui mène le jeu. Que ce soit l'Esprit Saint qui nous anime. Que notre action puisse effectivement toucher les cœurs, éclairer les esprits, et qu'il puisse y avoir une transformation en profondeur.
En vous écoutant, je me dis qu'il faut, si j'ai bien compris, renoncer à posséder, avoir les vertus. Or, quelque part, dans notre... Est-ce que c'est notre éducation? Est-ce que c'est le monde moderne? Est-ce que c'est quelque chose qui est très fort en nous? Il y a une recherche de sécurité. Et la sécurité, elle est, croit-on, dans l'avoir. Donc est-ce qu'il faudrait renoncer à cette fausse sécurité ?
Oui. Oui, le difficile, c'est d'accepter de rester pauvre et sans force. Donc, de ne pas avoir d'appui en soi et d'aimer sa petitesse et sa faiblesse, ça c'est le secret de Thérèse. Aimer sa faiblesse. Trouver la matière par laquelle Dieu va pouvoir déployer davantage sa puissance. Mais aimer sa faiblesse, vous voyez, tout en s'exerçant en vertu, hein, tout en faisant notre possible, tout en faisant nos efforts. Nos efforts pour agir d'une manière plus juste, plus forte, entre guillemets, plus tempérante, plus prudente.
Oui. Thérèse était au Carmel, elle avait quand même toute la sécurité. Un père de famille qui a des enfants, qui a t'as de soucis, perdre sa sécurité, point d'interrogation.
Non, mais je veux dire, sa sécurité au niveau de, d'une force en soi. C'est-à-dire ne pas jouir de ce sentiment de pouvoir gérer soi. En fait, le rêve de l'homme moderne, c'est d'être totalement autonome, de se suffire à lui-même. Hein. Tu gères, je gère, nous gérons. Hein. C'est-à-dire pas besoin des autres et surtout pas besoin de Dieu. Ça, c'est le principe essentiel. Hein. Besoin de Dieu. Il nous est demandé ici de suivre un chemin qui est radicalement contraire à la mentalité ambiante. C'est-à-dire aimer dépendre et de Dieu. Aimer dépendre d'une réalité que nous ne pourrons jamais posséder, qui sera toujours un don et qui est l'amour. Parce que autant les vertus humaines peuvent s'acquérir, autant l'amour, lui, ne s'acquiert pas. C'est un don à recevoir tous les jours. Donc face à l'amour divin, on est toujours dans une dépendance à Dieu. Dépendance à l'Esprit Saint, à sa grâce. On reste des mendiants d'amour continuellement, mais on se dispose activement à le recevoir et à le laisser agir en nous et à travers nous.
Bien plus grande que beaucoup d'entre nous.
Oui, alors je vais parler de la conscience. Je vais parler de la conscience.
Alors, si on n'était pas chrétien, on serait bien pire.
Ça va...
ça serait trois fois pire.
Ça va venir, la conscience. Hein? Alors, je cite simplement Sainte Thérèse d'Avila. Hein? Voici un artifice à l'aide duquel le démon peut à notre insu nous causer un grand mal. C'est de nous persuader que nous avons des vertus. Voyez ? Les saints se rejoignent, qu'effectivement nous n'avons pas, il n'y a rien de plus dangereux. Avec cette idée, le démon cause peu à peu un grand dommage à l'âme. D'abord, il affaiblit en elle l'humilité, ça la petite Thérèse avait bien compris. En second lieu, il la rend négligente à acquérir les vertus qu'elle croit déjà posséder, négligente à les exercer. En fait, il faut les exercer continuellement comme si on recommençait à chaque fois au début. Sans jamais se croire déjà capable.
Mais est-ce qu'à force d'exercer des vertus, il n'y a pas ce qu'on appelle un pli qui se fait et qui reste, lui ? C'est-à-dire qu'on ne repart pas à zéro chaque fois. Il y a une éducation. Et en particulier pour le combat spirituel.
Oui, de fait, il y a un pli normalement qui se fait. Thérèse dit que jusqu'à 14 ans, elle a senti aucun pli. Il y a un pli. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas le faire pour avoir le pli. Il faut le faire pour se disposer à l'amour. Le pli, il viendra ou il ne viendra pas. Ce n'est pas le problème. Regardez le bon larron. Il est mort, il est rentré directement au ciel, il n'avait aucun pli. Hein.
C'était mauvais.
Il a exercé l'essentiel, l'humilité. Donc on peut être parvenir à la sainteté sans avoir le pli des vertus humaines. Hein. Ah non. La perfection morale et la sainteté, de fait, c'est deux choses différentes. Mais néanmoins, il ne faut pas négliger les vertus morales, les vertus humaines, vous voyez, mais dans le sens que je vous dis. Voilà. Bon. Alors, comment vivre cet exercice des vertus ? C'est encore une fois le catéchisme. Sans la charité, je ne suis rien, dit saint Paul. Le catéchisme commande. Tout ce qui est privilège, service, vertu même, sans la charité, cela ne me sert de rien. Alors, l'Église enseigne que l'exercice de toutes les vertus, pour qu'elle soit en réalité, pour que nos vertus humaines soient vraiment vertueuses, c'est-à-dire nous permettent vraiment de faire le bien, en réalité elles ne se suffisent jamais à elles-mêmes. Elles ont, dit le catéchisme, besoin d'être animées et inspirées par la charité. On peut penser à saint Paul, hein, si j'avais toute la science, si j'avais toute la connaissance, si je parlais les langues des anges et des hommes, tout ça, si j'ai la charité, cela ne sert de rien. La vertu comme disposition à faire le bien, à faire ce qui est juste, par exemple, hein, l'homme juste, c'est celui qui est disposé à accomplir ce qui est juste, hein, eh bien, en réalité, le bien que la vertu vise ne pourra être réel que si cette vertu humaine, elle est inspirée déjà par l'amour. Parce qu'il n'y a que l'amour qui fait vraiment le bien. Et ça, on aurait besoin de s'en convaincre plus, enfin, le sait intellectuellement, mais souvent, on veut faire le bien en s'appuyant sur ce que l'on sait, sur ce qu'on sait faire, sur toutes nos compétences, notre savoir, et on n'a pas une conscience vraiment très, très, très vive de notre dépendance à la charité divine. C'est pour ça qu'on agit encore beaucoup de nous-mêmes sans se laisser conduire par l'amour. Alors, au fond, vous voyez, reprenons les choses. La vertu de force. Vous voyez ce que c'est la vertu de force? Bon, la prudence, vous avez une idée? La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Certains disent que la prudence, c'est l'art de tenir compte des circonstances. Mais c'est aussi la prudence, c'est aussi la vertu qui nous permet d'ordonner les choses, c'est-à-dire de discerner les moyens, comment on va parvenir au but, hein, en gardant le sens de la finalité. L'homme prudent, c'est celui qui sait ordonner sa vie en fonction du bien qu'il veut réaliser. Il voit l'ordre des choses. Il voit le chemin, il sait tenir compte des circonstances pour orienter son action d'une manière qui soit efficace. La justice, elle, est la vertu morale qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Au fond, l'homme juste, c'est l'homme droit. On pourrait dire fidèle à sa conscience, hein, obéissant à la vérité, qui est donc, d'abord dans cette rectitude de l'action. Regardez un Jean-Paul II, regardez un Benoît XVI, on sent cette fidélité à la vérité de ce qui est vraiment bien, de ce qui est mal, de ce qui est juste. La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. J'ai envie de dire que l'homme fort, c'est celui qui tient ferme dans la direction de sa vie, qui sait vraiment ce qu'il veut et qui reste attaché au bien avec persévérance. La vertu de force, elle est liée à l'espérance, hein, quelque part. Celui qui espère, il est tourné vers le but et il a une force en lui, un élan. Dans un monde où il y a de moins en moins de raisons de vivre, il y a de moins en moins de force aussi. Enfin, des gens, plus souvent, sont dans des états de dépression simplement parce qu'ils n'ont plus de motif d'espérer. Puis il y a la vertu de tempérance qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés, assure la maîtrise de la volonté. Alors, je ne fais pas un résumé de toutes de ces quatre vertus, mais je voudrais insister sur le fait que toutes les vertus de force, liées de justice et de tempérance, elles dépendent toutes de la prudence. La vertu de prudence est la seule qui soit à la fois, comme disent les théologiens, morale et intellectuelle. Les autres, c'est plutôt la disposition de la volonté. Une volonté tournée vers la justice, vers ce qui est vraiment bien, une volonté ferme dans son adhésion au bien, une volonté qui assure une maîtrise, dans la maîtrise de soi. Mais pour ce qui est de la prudence, il y a autre chose. C'est notre intelligence aussi. Qui devient de plus en plus prudente, entre guillemets. Et une justice sans prudence, ça donne quoi? Ça donne une justice folle. C'est-à-dire, au nom de la justice, par exemple, on va défendre l'égalité. L'égalité à tout prix. Partez de la justice. Mais on voit qu'un aspect des choses, puis on ne tient pas compte de la différence entre l'homme et la femme, par exemple. On ne tient pas compte du vrai bien des personnes, et on voit plus que cet aspect d'égalité. Alors, les vertus humaines sans la prudence deviennent folles. Au nom de la tolérance, sous la Révolution française, on a massacré, on a tué des centaines de milliers de personnes au nom de la tolérance. Au Mont Saint-Michel, il y avait des moines, la communauté a été. Je ne sais pas si on les a exilés ou si on les a. Décapité, mais en tout cas, le monastère a été transformé en prison et on a appelé ça le mont de la liberté. Hein? On peut dire jusqu'où peut aller l'incohérence quand il manque la vertu de prudence. Quand je dis la prudence, c'est la sagesse en fait. C'est la sagesse pratique. C'est-à-dire, on voit la vraie finalité des choses et on ordonne les choses en fonction de la vraie finalité. Mais là, la finalité. Si c'est la justice pour la justice, l'égalité pour l'égalité, il n'y a plus de prudence possible. On est dans une recherche d'un idéal et on le poursuit aveuglément. C'est là qu'on peut tomber dans les choses les plus contradictoires. Donc, ce qui est essentiel dans l'action, c'est finalement la lumière. La lumière qui éclaire mes pas et qui permet d'agir avec toute la sagesse nécessaire en tenant compte de la réalité et puis en gardant présent à l'esprit ce qui est le vrai but, la vraie finalité. Cette lumière, on va la trouver. La lumière pour que nos actions soient vraiment ajustées aux autres, au réel. La lumière de la sagesse, on va la trouver où ?
Dans l'amour de Dieu.
On va trouver dans la charité. En fait, saint Thomas d'Aquin explique que toutes les vertus dépendent de la charité, doivent être inspirées par la charité, parce que toutes dépendent de la prudence, et qu'il n'y a pas de prudence sans amour. Je repense à, voyez, à cet homme que j'ai, jeune prêtre, voulu aider. En me braquant sur, on était plusieurs à se braquer sur la question du logement. Donc, on met toute notre énergie à faire qu'il puisse avoir un petit studio, qu'il puisse avoir aussi une allocation, qu'il puisse avoir le SMIC, qu'il puisse tout ça. On poursuit quoi comme but ? On poursuit comme but un équilibre humain, une stabilité. Est-ce que c'est ça la sagesse ? Alors, la sagesse nous fait regarder vers le vrai but. Le vrai but, c'est le bien de l'âme. C'est la vie éternelle. L'homme sage, c'est celui qui regarde vers le royaume de Dieu. Alors, à ce moment-là, pendant plus d'un an, nous avons cherché à l'aider. En fait, on croyait bien agir, mais on n'était pas vraiment prudent parce qu'on avait oublié le vrai but. S'était focalisé sur quelque chose qui n'était que de l'ordre d'un moyen. Ça sert d'avoir un logement. Mais c'est pas ça qui assure le salut. C'est pas le salut de la personne. Et donc, en réalité, tout ce que l'on a fait, on l'a fait avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de... Il y avait des personnes très compétentes. Et finalement, c'était pas dans la lumière. On n'était pas bien éclairé. On croyait faire bien, mais en réalité, on a fait un travail qui était décalé. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Il nous a manqué une clairvoyance. De comprendre les vrais besoins de son âme. Comprendre sa vraie souffrance, de comprendre son vrai combat. On n'a pas vu. Benoît XVI a dit dans son encyclique, le programme du chrétien, c'est un cœur qui voit. Là, on n'a pas vu. Qui voit là où l'amour est nécessaire et qui agit en conséquence. L'intelligence du cœur qui voit, qui discerne, qui sent les choses, qui agit en conséquence, qui garde les yeux fixés vers le vrai but, le vrai bien intégral et éternel de la personne. Alors, en réalité, c'est ça la prudence. C'est une sagesse pratique dans l'action. C'est pas une attitude frileuse qui fait qu'on n'oserait pas faire certaines choses, non, c'est pas ça. C'est de discerner les choses en fonction de la véritable finalité.
Dans l'exemple que vous avez choisi sur ce jeune qui s'est suicidé, qu'est-ce qu'aurait pu être fait si vous aviez été dans l'intelligence du cœur.
Dans un cas comme ça, il aurait fallu... en fait, il cherchait... J'ai su après qu'il cherchait une compagne, qu'il n'en trouvait pas. Il aurait fallu lui faire faire tout un... Il était par une qualité d'écoute et de présence, et surtout d'accompagnement, qui puisse davantage vivre une certaine communion fraternelle qui le sorte de sa désespérance par rapport à un sentiment d'isolement, de solitude. Surtout qu'une fois qu'on a réglé son problème, on s'est de moins en moins occupé de lui. Vous voyez, on oublie le... Vous voyez, on se dit, ouais, la victoire acquise. Vous voyez, en fait, on a pas atteint le vrai but. Vous voyez comment on peut s'aveugler, hein? Avec le recul, on se rend compte qu'on a dépensé une énergie folle pour rien. Si je n'aime pas la charité, ça ne me sert de rien. Là, c'était clair, net. C'est une leçon douloureuse que je garde dans mon cœur, même 20 ans après, vous voyez. Plus de 20 ans après, oui.
Mais tout cet amour que vous avez quand même déployé pour lui, pour lui trouver ce studio, etc., on peut penser que ça a aidé à son salut éternel après.
Est-ce que c'était la charité divine ou l'amour humain ? Hein ? Non, c'est pas la même chose, vous voyez, parce que on a une capacité humaine de générosité, par exemple. J'étais très dans la générosité. Tout pour Dieu et pour les autres. Comme dit Benoît XVI, on peut tout faire pour Dieu et pour les autres et se tenir totalement à l'écart de Dieu. On peut faire beaucoup de choses pour les autres sans avoir son cœur ouvert aux autres. L'amour ne se mesure pas à la générosité. Le véritable amour, c'est une ouverture du cœur. Et souvent, vous voyez, on est pris par son projet. On a un projet pour l'autre. On est plein de générosité. Mais on passe à côté de l'autre. On ne le voit pas. On est pris par le faire.
On réfléchissait au parcours Alpha tous les deux cette semaine. Là. Et il y a un débat éternel sur le parcours Alpha. Vous savez, c'est le contenu des conférences. Parce que comme c'est d'inspiration anglicane, je crois, au départ, on peut avoir certaines réserves sur tel point dans les conférences. Et on se demandait pourquoi, malgré tout le parcours Alpha, avait le succès qu'il avait. Moi, je dis habituellement que c'est là que j'ai, en paroisse, vu des conversions. Et j'en ai pas vu tellement ailleurs en paroisse, hélas. Et la raison qu'on trouvait, c'est que, tout simplement, c'était le lieu de l'accueil. Donc, si ça marche, c'est parce qu'on accueille les gens, tout simplement, sans les juger tels qu'ils sont. Et finalement, ce que l'on peut dire ou pas est assez secondaire. C'est un peu... Il faut accepter ça, que ce que l'on dit est secondaire par rapport à la posture d'accueil.
Oui, tout à fait. En réalité, quand c'est l'amour divin qui nous anime, notre action est inspirée donc par la lumière de l'amour et elle est elle-même lumineuse. Et elle parle au cœur des personnes. Elle parle au cœur des personnes au-delà de ce que nous pouvons penser. On ne sait pas quelle est la parole ou le geste qui va toucher l'autre. Il y a eu une fin de messe où, à la fin de la messe, c'est moi qui suis allé dans l'église, le dimanche, il y a des panneaux qui cachent le tabernacle. On ne voit pas le tabernacle qui est au fond. Et à la fin de la messe, on l'ouvre normalement. Et moi, à la fin de la messe, j'ai senti le besoin de voir le tabernacle. Il y a eu un élan d'amour prier le Père Jésus, il fait que j'avais le curé à côté de moi qui, je lui ai dit, on ouvre, il m'a dit oui. Là, je me suis jeté sur le truc, mais j'ai poussé avec force. Et il y a une personne qui m'a dit, deux jours après, j'ai été touché quand tu as ouvert les portes. Parce qu'elle a dû sentir ça, vous voyez, cet élan. Moi, j'étais à milieu de penser que j'allais toucher quelqu'un en ouvrant les portes. C'était un geste simple. Non, mais ce qui compte, ce n'est pas le geste humain, c'est la force motrice, l'esprit. L'esprit dans lequel on fait les choses est plus important que les choses. Et c'est ça qui parle, qui rayonne. Écoutez là, écoutez Benoît XVI. Nous avons besoin d'hommes. Non, c'est le cardinal Ratzinger, excusez-moi. Nous avons besoin d'hommes dont l'esprit soit illuminé par la lumière de Dieu, la lumière de l'amour, et à qui Dieu ouvre le cœur, de telle sorte que leur esprit puisse parler à l'esprit des autres et que leur cœur puisse ouvrir le cœur des autres.
Vous pouvez répéter?
Non, mais vous l'aurez dans le texte écrit. Voyez, d'esprit illuminé par la lumière de Dieu, par la lumière de l'amour, de cœur touché, ouvert à Dieu, qui touche comme ça. Si on se laisse toucher par l'amour divin et qu'on la laisse agir en nous et à travers nous, cet amour divin qui va nous ayant toucher les autres, les éclairer et les toucher. Et ça se communique, ça se passe au-delà de tous nos petits calculs, de tous nos vouloir faire. C'est là où on comprend, on va en parler, la nécessité d'un lâcher prise. L'essentiel nous dépasse. La vraie efficacité, la vraie fécondité, le vrai rayonnement d'attraction nous dépasse. Et on ne doit pas exercer les vertus pour maîtriser les choses, on doit plutôt exercer les vertus dans un esprit de lâcher prise. On se dispose simplement. On se dispose en exerçant les vertus et on laisse l'amour faire. On laisse l'amour nous inspirer. Écoutez la petite Thérèse. De loin, cela paraît tout rose de faire du bien aux âmes. On veut aider une personne. On va lui donner des conseils, on va l'orienter, Ça paraît tout rose de faire du bien aux âmes, de leur faire aimer Dieu davantage. Enfin, de les modeler d'après ses vues et ses pensées personnelles. Là, c'est moi qui agis de moi-même avec ma prudence à moi, avec ma justice à moi, mes compétences. De près, c'est tout le contraire. Le rose a disparu. On sent bien que faire du bien, ces choses aussi impossibles, sont le secours du bon Dieu que de faire briller le soleil dans la nuit. Et j'aime bien cette image. Vous voyez ? Parce que le premier bien que Dieu veut faire à travers nous, c'est d'illuminer, d'éclairer. On est la lumière du monde. D'ailleurs, il y avait un témoignage sur la lumière. C'est la lumière du monde.
Ah oui. Un témoignage assez récent qui s'est passé pendant toutes les actions menées au cours de pour la manifestation. Il y a un certain nombre de musulmans, quelques musulmans qui se sont investis et qui ont beaucoup œuvré avec des catholiques autour d'eux. Et alors il y a eu quelques témoignages de ces musulmans qui, à force de côtoyer les catholiques, ont pu dire l'un, de toute façon les catholiques, ils sont la lumière du monde. Et puis un autre musulman qui a dit, mais ils sont incroyables ces catholiques, je ne les connaissais pas, mais tout ce qu'ils font, c'est avec amour, c'est avec joie, tout le temps dont ils disposent, ils le donnent aux autres. Je suis sidérée. Voilà, deux beaux témoignages.
Ça s'est fait à l'insu des personnes. À travers quoi ils ont été touchés, on ne sait pas, on ne saura jamais. Regardez un autre témoignage. C'est Mère Teresa qui témoigne de la conversion d'un musulman, Moulvi. Il vit une religieuse bander les plaies d'un lépreux avec beaucoup d'amour. La sœur ne parlait pas beaucoup, mais travaillait. Moulvi retourna chez le père, c'était un père jésuite, et lui dit « Durant toutes ces années, j'ai toujours pensé que Jésus était un prophète. Mais aujourd'hui, je sais qu'il est Dieu, parce qu'il a mis tant d'amour dans les mains de cette religieuse. » On se dit « Mais comment des mains peuvent dire Dieu ? » Comment cette lumière qui était dans les mains de cette sœur, d'elle éclairer à ce point l'esprit de ce musulman pour qu'il puisse dire Jésus est vraiment Dieu. Mère Teresa commente, cette sœur aujourd'hui encore ne sait pas que grâce à son action, Jésus est né dans la vie de cet homme. Aujourd'hui, Jésus marche dans le monde à travers toi, à travers moi, allant et faisant le bien. Ma sœur, il faut laisser Jésus agir en nous et à travers nous, à notre insu. Comment ? En laissant son amour divin nous pénétrer, nous inspirer, nous mouvoir, au-delà de tout ce que nous pourrions vouloir faire nous-mêmes humainement. La sœur, elle était toute à son travail. Elle parlait peu, elle travaillait bien. Elle s'exerçait aux vertus, entre guillemets. Faisait avec, en étant la plus juste possible, en étant avec le plus de tact, de prudence, de délicatesse possible. Mais surtout, elle laissait l'amour la pénétrer, la traverser. Si on était pleinement convaincu de ça, on serait plus à la fois plus cool, c'est-à-dire, mais arrêter tous ces faux plans et ces faux calculs. Et en même temps, on serait en même temps beaucoup plus vigilant parce que tout peut dire Dieu. Tout peut être rayonnant. Il n'y a pas des actions ordinaires d'un côté qui ne seraient pas intéressantes et puis des actions d'évangélisation qui seraient très intéressantes. Mais tout est fait pour rayonner l'amour divin.
C'est juste une petite anecdote. Il y a quelques années, quand je faisais l'aumônerie à des jeunes, Michel était souvent absent et j'avais été le rejoindre une semaine. Ça, c'est pour dresser le tableau. Et l'été suivant, j'ai rencontré une dame qui vient me voir et qui me dit « Madame, c'est vous qui faisiez l'aumônerie à ma fille cette année ?» Alors moi, je me suis dit, oui, ben voilà. Je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qu'elle a retenu? Elle m'a dit, bah vous savez, ce qu'elle a retenu, c'est que vous aimiez votre mari. Alors que j'en avais jamais parlé. Enfin, on n'avait jamais évoqué, j'allais dire, le mariage, le sacrement du mariage. Et finalement, j'allais dire, mes mots, elle ne les a pas retenus. Ce qu'elle a retenu, c'était ce que j'étais, en fait. Et puis peut-être que... À travers ce que je disais, elle a retenu ça, mais j'avais été très étonnée. Et comme me dit le père, maintenant, comme je parle de Dieu aux enfants, je me dis de toute façon, ils entendent ce qu'ils entendent, mais ça me dépasse complètement.
Vous avez compris que j'ai beaucoup de chance. Ça fait un quart d'heure que je suis avec mon portable, parce que je cherchais dans les textes de samedi dernier la citation exacte. Qui me travaille depuis un quart d'heure, c'est dans les Actes. Les membres du Grand Conseil d'Israël étaient surpris en voyant l'assurance de Pierre et de Jean et en constatant que c'était des hommes quelconques et sans instruction.
Animés par le feu de l'amour divin, grâce à la Pentecôte. Que votre charité, dit saint Paul, surabonde. La BJ dit croisse de plus en plus et s'épanche, mais littéralement surabonde, cette vraie connaissance et cette littéralement parfaite clairvoyance qui vous donneront de discerner le meilleur, de vous rendre pur et sans reproche pour le jour du Christ, pour la pleine maturité de ce fruit de justice que nous portons par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Ce que j'aime ici, c'est cette idée que la charité surabonde, se penche en vraie connaissance et parfaite clairvoyance. En vraie connaissance de Dieu, qui est amour, et parfaite clairvoyance dans la lumière de Dieu, dans la lumière de l'amour, pour discerner le meilleur, ce qui est tout à fait ajusté dans la sagesse divine, à la situation, la parole juste au moment juste, le geste juste au moment juste. C'est ça que la charité surabonde en vous. Dans cet épanchement de l'amour, vous pouvez sentir qu'il faut que l'amour, il faut que l'amour soit actif, actuel, comme on dit, il faut qu'il soit brûlant. Hein, c'est l'image du feu ici qui peut venir. Il faut qu'il y ait, pour que cet amour puisse s'épancher en. Produire cette connaissance intérieure de Dieu qui nous fait voir les choses dans la lumière de Dieu, de donner cette clairvoyance du cœur, il faut qu'il brûle. Le feu, quand il brûle, il éclaire. En fait, on peut agir avec beaucoup de générosité sans avoir un cœur brûlant. C'est là où je réponds. Il ne faut pas confondre l'amour humain et puis le feu de la charité divine. En fait, il y a un abîme entre les deux.
Du coup, on peut aussi aimer d'un amour de Dieu, c'est-à-dire charitable, sans forcément aimer d'un amour humain.
Hein? On peut aimer d'un amour de Dieu.
La personne que vous n'aimez pas,
très répétée.
Oui, mais on peut aimer d'un amour divin sans aimer d'un amour humain. C'est-à-dire, si par amour humain, on entend ce jeu des sympathies, des attractions humaines, évidemment, on peut aimer des gens qui nous sont humainement très désagréables. Et oui, et vis-à-vis desquels on a vraiment de grandes répulsions, par motif de caractère. Et la charité, elle dépasse ça. Mais aussi, on peut aimer d'un amour de charité, surtout sans sentir qu'on aime. Parce que plus l'amour est divin, et moins il se laisse observer, moins il est mesurable. Et donc, on comprend très bien que des personnes saintes vivent dans ce monde en ayant quelquefois un état un peu de sécheresse de cœur. Elles ont comme le cœur sec, mais en fait il est ouvert ce cœur sec. Mais elles ne ressentent pas, elles jouissent pas d'un sentiment d'aimer. Elles laissent tellement l'amour divin les traverser et les pénétrer qu'elles elles sont comme vides et remplies d'une autre vie, d'autant plus qu'elles consentent à rester vides elles-mêmes.
Donc ne pas se fier à son ressenti.
Et oui, parce que souvent, on cherche le sentiment d'aimer plus qu'on cherche l'amour.
Oui.
Quelque part aussi, on agit pour se prouver qu'on aime. On est dans une secrète recherche de soi aimant. Et là aussi, c'est un manque de... Comment dire, c'est un manque de don de nous-mêmes, parce que le vrai don de nous-mêmes, il est de se détacher de ce que nous sommes, de ce que nous voudrions être, pour se livrer à Dieu, pour se mettre tout au service de l'action divine, en s'oubliant soi-même. Quand on est animé par la charité divine, on ne se regarde pas. Il y a la grâce d'un amour pur, gratuit. Donc on n'est pas là en disant « Ah, il faut que j'exerce la justice pour devenir un homme juste. » Non. Il faut que là, j'arrive à maîtriser, comme ça, un jour, je serai tempérant. Non.
Tout simplement avoir une bonne image de soi qui est de recherche.
Oui.
Très véhiculée dans la psychologie.
Je pensais à l'image des autres, l'image de soi chez les autres aussi.
Et puis il y a l'image de soi chez les autres, c'est-à-dire aussi l'image qu'on voudrait donner de soi-même aux autres.
Pour abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses décrets sont insondables et ses voies impénétrables, car tout est de lui, par lui et pour lui, à lui soit la gloire à jamais. Amen, amen, amen.